Donc, nous continuons notre tour de table. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Jean Davoigneau, qui est donc du ministère de la Culture. Alors, le ministère de la Culture va nous préciser plus particulièrement quel service et nous présenter son service.
Merci. Oui, donc je ne représente pas le ministère de la Culture. Enfin, je suis du ministère de la Culture, mais je ne représenterai pas ici le ministère de la Culture. Je ne représenterai pas non plus la Direction Générale des Patrimoines, puisqu'on a déjà entendu les archives hier, etc. Les musées ont beaucoup... Enfin, la Direction des Musées n'est pas présente, mais les gens parlaient. Je ne parlerai pas non plus des monuments historiques, bien que je sois intervenu sur ce sujet à plusieurs reprises, puisque j'ai la chance et l'honneur de siéger au Commission nationale des monuments historiques au nom de l'inventaire général, et je vais y revenir, lorsque se présentent des cas de protection sur le patrimoine industriel, scientifique et technique. Donc je travaille à la mission inventaire général du patrimoine culturel. L'inventaire général a été créé comme le CERN en 1964, mais c'est beaucoup moins connu et peut-être beaucoup moins prestigieux. Donc on fêtera aussi sous la forme d'un modeste colloque l'année prochaine ses 60 ans et les 10 ans de décentralisation de ce service. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur ce sujet, ça c'est important. Donc le législateur, j'aime beaucoup cette formule, ça fait appel à ce que nous disait Marie Cornu, mais en fin de compte c'est André Malraux le législateur dans l'affaire. Donc André Malraux, sur les conseils d'André Chastel, crée en 1964 un service intitulé « Inventaire général des richesses artistiques de la France ». Comme vous voyez, le titre a changé. Et donc c'est ce que je vais essayer de dire en quelques mots, ce changement. Par contre, ce que l'on crée sur les conseils d'André Chastel, c'est en fin de compte une entreprise de connaissance du patrimoine, une entreprise documentaire sur le patrimoine. Donc, il n'y a aucune mesure conservatoire dans cette aventure de l'esprit, c'est comme ça que Malraux l'appelle, qui est prise à la fin de l'enquête menée par le service. Donc, deux formules guident ce travail et sont quasiment créées dès 65 ou 66, c'est recenser, étudier et faire connaître, qui sont les trois verbes d'action qui mènent la politique de service. Et l'autre, c'est son étendue. De la petite cuillère à la cathédrale, qui est une formule qui a été longtemps citée et qui l'est toujours, ce qui sous-entend bien qu'il y a à la fois les objets et les lieux et les monuments. Comme c'est une entreprise documentaire, ce qui a guidé les créateurs à ses débuts, c'est la constitution d'une méthodologie de travail. Et ce qui est étonnant... alors on est dans les années 60, hein, on est dans une période où on réfléchit à des méthodes, etc., etc. Et de plus, comme l'a dit dans les entretiens du patrimoine sur ces années 60, Jean-Pierre Rioux, l'historien, on ne pouvait plus s'intéresser aux Ambèzes, on s'est intéressé à la Corrèze. Donc on se concentrait sur la France et on s'est mis à mettre en place des méthodes de travail héritées des ethnologues, des choses comme ça. Et pendant 2-3 ans, il y a établissement d'une méthode de travail et ensuite installation d'équipes régionales dans toutes les régions de France. Et on peut dire qu'au début des années 80, toutes les équipes sont en ordre de marche. Par contre, très vite, l'idée des fondateurs qui étaient de s'intéresser aux richesses artistiques, c'est-à-dire aux trésors, aux œuvres d'art oubliées, méconnues, etc., eh ben, les chercheurs se sont avérés qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient face, en fin de compte, au grand nombre, au banal, au commun. Et en fin de compte, leurs méthodes de travail sont venues s'enrichir de ce travail sur le grand nombre. Et ils ont extrêmement travaillé sur ce sujet. Et ce que l'on peut dire, c'est que là, je vais faire quelques dates, ces méthodes spécifiques ont été interrogés dès 81 par une équipe qui s'appelait la MIDIST, qui était une mission interministérielle sur la documentation scientifique et technique, pour créer au sein de ce service de l'inventaire général une cellule du patrimoine industriel. Ça, c'est, je pense, c'est la chose la plus importante, et que ces méthodes qui avaient été mises en place étaient propres à l'inventaire, mais pouvaient être aussi prise pour étudier le patrimoine industriel. Et ce qui est intéressant, c'est 1960 et 1980, bon, d'abord deux grands ministres de la culture, si on peut quand même le dire, mais par ailleurs, c'est aussi le fait qu'on s'aperçoive que le monde rural est en perdition en 1960 et que le monde industriel est en perdition en 1980. Il y a aussi des demandes comme ça sociales qui sont reprises par l'État à ce moment-là. Donc dès 1983, une cellule du patrimoine industriel, les méthodes mises en place pour un patrimoine qu'on qualifierait histoire de l'art ou histoire de la vie domestique, etc., en fin de compte, est pris en compte pour le patrimoine industriel et ça marche. Ce que l'on peut dire, c'est que en 1995, là c'est une demande du monde scientifique qui revient, et à chaque fois, quelle est la démarche de l'inventaire? C'est d'essayer de voir si les grilles d'analyse et les vocabulaires spécifiques mis en place se prêtent au nouveau sujet. Alors évidemment, les vocabulaires non, mais les grilles d'analyse, à chaque fois, elles marchent. C'est-à-dire que ce qui marche pour la croix de chemin marche pour le spectrographe, et ce qui marche pour une église peut analyser un observatoire ou un laboratoire d'essai. Et encore une fois, alors là, c'est une demande qui émane du CNRS et de sa section sur l'astronomie, via le relais de Bruno Jacomi, dont on a déjà parlé hier, et de Thérèse Charmasson, dont on a parlé hier pour les archives. Cette demande arrive à l'inventaire et on met en place un vocabulaire d'analyse spécifique, de désignation et de description pour le monde scientifique. Alors, je terminerai rapidement pour dire que ces grilles, comme je viens de le dire, le château, la cathédrale, le calice et l'ostensoire sont remplacées, ou les grilles qui ont été mises en place pour analyser ces œuvres, pour l'usine, le pont, le laminoir, le spectrographe ou le microscope électronique. Comme c'est une entreprise de description, il y a aussi une chose qu'il faut dire, et ça rejoint des discussions, la discussion de fin de matinée, mais aussi des discussions qu'on a eues hier sur les collections. C'est-à-dire que comme c'est une entreprise de description, on n'est pas à l'objet. On n'est pas à l'objet, on n'est pas au lieu. Donc en fin de compte, la description peut se faire sur des réseaux, sur des ensembles, et je pensais à ça ce matin quand vous parliez du réseau de communication Ramage. Voilà, exactement. Donc là, alors, l'autre grand fait dans tout ça, c'est 2004. 2004, cette entreprise de documentaire, n'ayant pas de règlement à appliquer, de servitude régalienne à même être en œuvre, est décentralisée. Qui sous-entend que la mission d'inventaire, la compétence d'inventaire, est maintenant une compétence de la région. Chaque région a pris en compte les services qui, jusqu'à présent, étaient au sein des DRAC et maintenant sont au sein des conseils régionaux. Évidemment, les politiques régionales recoupent ou rejoignent les politiques de l'État. C'est plus compliqué que ça ne l'était, mais ça reste un service quand même essentiellement documentaire au service des territoires. La méthodologie d'inventaire, par contre, reste au niveau de l'État, et c'est pour ça que je suis un des dinosaures restés au service de l'État. Voilà ce que je pouvais dire sur le service. Je terminerai juste par trois petites références bibliographiques. Cet ouvrage qui est important, qui s'appelle « Patrimoine industriel et technique, perspective et retour sur 30 ans de politique publique au service des territoires », donc qui fait le bilan du travail sur le patrimoine industriel, scientifique et technique au sein de l'inventaire pendant 30 ans, qui a été publié dans la collection « Les cahiers du patrimoine » en 2011. Sinon, évidemment, on est devenu, après 50 ans, un objet d'étude. Et il y a une sociologue, Nathalie Hennisch, qui a fait publié deux ouvrages sur l'inventaire que je peux vous engager à lire. L'un s'appelle « La fabrique du patrimoine de la cathédrale à la petite cuillère », donc elle reprend cette chose, qui a été publiée dans les collections Ethnologie de la France, Maison des sciences de l'homme en 2009, et un autre ouvrage qui vient d'être mis en ligne et donc est téléchargeable et donc gratuit, enfin le temps que vous le téléchargez, quoi, qui s'appelle Nathalie Hennisch, « Le travail de l'inventaire, cette étude sur l'administration patrimoniale dans les carnets du laïc, LAHIC », qui vient de publier en 2013. Voilà. Donc c'est aussi une institution, c'est ce que s'y rappelle. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long.
Parfait. Non, vous étiez dans le délai, dans les temps. Et puis c'était très intéressant de voir ce retour un petit peu, sur un retour en arrière sur 50 ans. Donc simplement, ce qu'on peut quand même noter, c'est cette marche autour du grand nombre d'objets. Hein. Et l'exemple le plus frappant que j'ai eu récemment, c'est les soirées Bonnet à Jujurieux, où ce sont des centaines et des milliers d'objets qu'il faut référencer, cataloguer, analyser, classer. C'est un travail de plusieurs décennies. Hein. Donc c'est un volume important. Et là, on va avoir vraiment de la petite cuillère jusqu'à l'atelier. Hein. Donc c'est un volume important. Et puis 2004, la décentralisation. Ça, c'était quand même essentiel, c'est important. Parce qu'on s'aperçoit très nettement que le fait de se rapprocher des territoires, eh ben, on est plus proche aussi de la réalité. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que cette année, on est en fait le 100e anniversaire de la loi de 1913, hein. Donc, et on s'aperçoit que la région Rhône-Alpes est une des régions de France les moins protégées au titre des monuments historiques. Les deux départements les plus pauvres, c'est la Savoie et la Haute-Savoie. Et lorsque Madame Marie Bardiza en fait l'analyse, c'est sa référence, c'est se dire simplement les traces qu'elle trouve dans les archives parisiennes, c'est que pour les Parisiens, notre région était une région sans intérêt, avec un patrimoine pauvre et médiocre. Donc, et c'est à partir de la décentralisation qu'on s'aperçoit là, avec un pic de classement, de protection assez, assez important, une évolution très très forte. Seul contre-exemple, dans les années 20-30, avec 80 protections dans notre région pour la ville de Pérouges. Hein, c'est la ville de Pérouges, à elle seule, qui dans cette période-là a absorbé 80 classements et inscriptions au titre des monuments historiques. Donc là, c'était grâce à Pérouges qu'on a eu ce pic. Donc voilà. Donc, preuve que la décentralisation, lorsqu'elle est bien menée, est intéressante pour la protection et la valorisation du patrimoine. Notre troisième intervenant, donc Alain Robert, délégué départemental pour l'Isère de la Fondation du patrimoine, Fondation du patrimoine qui est aujourd'hui un acteur essentiel dans le paysage du patrimoine en France, hein, parce qu'ils ont un levier important, c'est l'argent. L'argent, sans le financement, sans argent, malheureusement, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on s'aperçoit, grâce à un certain nombre de grandes sociétés, du mécénat d'un certain nombre de sociétés, et qu'on peut avancer. Et nous, un de nos mécènes, je dirais, reste EDF. EDF qui, depuis 20 ans, nous soutient. C'est un partenariat fidèle depuis 20 ans. Bon, c'est quand même important. Alain, cher Alain, je te laisse te présenter la Fondation